Il y a quelques petites questions. Commençons par la principale. L'homme peut-il parvenir sans la grâce à une contemplation naturelle de Dieu en acte? Vous comprenez? Sans la grâce. La grâce de Dieu est tout le temps là. Dieu nous soutient bien plus qu'on ne le pense. Alors, il faut bien distinguer la conscience qu'on a de la grâce. On doit dire qu'on peut prouver l'existence de Dieu naturellement. Ça ne veut pas dire sans la grâce. Ça veut dire qu'objectivement, l'intelligence peut atteindre Dieu sans la foi. La foi, c'est justement une grâce explicite. On a conscience d'avoir une puissance qui dépasse le point de vue naturel. On en a conscience. On a conscience d'avoir la foi. Vous avez conscience d'avoir la foi. Je veux avoir la foi, j'ai la foi. Et je sais que j'ai la foi. Tandis que la conscience de la grâce, de la charité, vous espérez toujours. On n'a pas une certitude absolue. On n'a pas besoin du reste, on fait confiance totale à Dieu. Et cette question-là, vous voyez, c'est pour ça que l'homme peut-il parvenir sans la grâce à une contemplation de Dieu? Peut-il vivre sans la contemplation, sans la grâce? Il est soutenu par Dieu. Dieu est son créateur de son âme. Donc il est soutenu par Dieu. Et Dieu est son père. Puisqu'il a eu une âme humaine qui est faite pour la béatitude. Dieu est son père. Alors Dieu suspendrait à dire « Ah, si tu ne me connais pas, donc, moi je ne te connais pas. » Dieu nous connaît sans qu'on le connaisse. Pour tous les païens. Dieu les connaît, les païens. Il ne faut pas croire qu'il y a des païens pour Dieu. Vous dites du côté des hommes que vous dites c'est les païens. Mais du côté de Dieu, il n'y a pas de païens. Comme si Dieu faisait « Ah, toi, tu es païen. Dis-toi que je ne m'occupe pas de toi. » Il n'y a pas de païens pour Dieu. Il y a des hommes qui n'explicitent pas leur connaissance de Dieu, mais ils sont aimés de Dieu. Dieu les aime, Dieu leur crée une âme. Et en créant Dieu une âme, il les a aimés gratuitement. Alors vous voyez, faisons attention. Je prends la distinction du côté de l'homme. A-t-il une connaissance explicite de la grâce? Savoir s'il a la grâce ou pas la grâce, ça regarde Dieu. Et on sera très étonné au ciel quand on verra comment Dieu s'occupe des païens. On sera très étonné. Bon, alors continuons. Alors, vous voyez, cette première question, je la laisse tomber. Ça ne me regarde pas. On peut connaître l'existence de Dieu sans la révélation. Sans la foi. Oui. Et donc, on peut contempler Dieu sans explicitement la foi. Connaissance naturelle de Dieu. L'homme peut-il, sans la grâce, aimer Dieu? Peut-il exercer une adoration naturelle sans la grâce? La même distinction. Distinguez bien l'aspect subjectif et l'aspect objectif. Objectivement, il peut adorer Dieu sans la grâce, sans la révélation. J'aime mieux dire sans la révélation. Parce que sans la grâce, c'est équivoque, dire ça. Mais nécessairement, Dieu le soutient. C'est une âme de bonne volonté. pour un païen qui ne connaît pas la révélation et qui contemple Dieu, il montre bien sa bonne volonté. Et Dieu l'aime. Et donc, il est. La grâce est en lui. C'est naturellement l'impression qu'on a quand on rencontre un païen qui n'a pas reçu du tout, qui ne connaît rien à la révélation, et qui, cependant, adore Dieu. On est en face de quelqu'un qui aime Dieu et que Dieu aime. Alors j'aimerais mieux que vous dire grâce, l'amour de Dieu, c'est tout. L'homme peut-il sans l'amour de Dieu aimer Dieu? Il aime Dieu parce que Dieu l'aime. Peut-il exercer une adoration naturelle sans l'amour de Dieu? Non, Dieu l'aime. Mais la grâce, ce qu'on appelle la grâce, explicitement, que le Christ est venu le racheter et est mort pour lui, ses péchés, il peut très bien ne pas le connaître. Pour aimer Dieu naturellement par-dessus toute chose, l'homme dans l'état de nature corrompue, il ne sait pas qu'il est dans l'état de nature corrompue. Ça c'est vous qui dénommez nature corrompue. Espèce de païen, tu es la nature corrompue. Il ne sait pas. Vous savez qu'il y a le péché originel, par révélation, et vous ne savez pas sans la grâce. Vous voyez, là, il faut faire attention où vous placez objectivement. Le païen ne peut pas savoir ça. Si oui, comment comprendre cet article de saint Thomas pour aimer Dieu naturellement par-dessus toute chose? L'homme dans l'état de nature corrompue a besoin du secours de la grâce qui vient. Et c'est évident. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit saint Thomas. Mais il n'a pas explicitement la grâce, il n'a pas conscience explicitement de la grâce, de la révélation. Donc il faut faire attention de ne pas jouer entre les deux. Ou vous placez quelqu'un avec la révélation. Lui n'a pas la révélation, mais il se conduit honnêtement. Plus qu'honnêtement, il se conduit religieusement. La vertu de religion existe sans la grâce. Il se conduit religieusement et il a un respect pour Dieu et il l'adore. Et vous inclinez devant lui en voyant combien il est mené par la grâce. Est-ce que vous dites spontanément combien il est mené par la grâce, sans le savoir. Donc il est bien évident que un homme, étant donné que la nature est corrompue chez tous les hommes, et qu'ils ne sont pas baptisés, donc la nature corrompue demeure. C'est sûr, ils ne le savent pas. Mais alors, en dehors de ça, du baptême, il n'y aurait pas la grâce. Pas du tout. Elle est bien plus répandue. Heureusement. Mais il ne sait pas. Et vous lui apprenez, à cet excellent païen, vous lui apprenez que Jésus est venu pour nous aider. La révélation. Et il la boit, la révélation. Ah, c'est ce que j'attendais. Oui.
Est-ce que mon père, parce qu'on a discuté là-dessus ces derniers jours, alors la grâce, c'est juste une explicitation de quelque chose qui est déjà là, comme vous dites. Il est déjà disposé attention. Par sa nature et...
Attention. On parle d'un homme qui découvre Dieu et qu'il contemple. Hein? Ouais. Vous ne prenez pas tous les hommes.
Ouais.
Donc, vous prenez un homme. C'est exactement qui, naturellement, ne fait pas partie de l'Église catholique, ne sait pas ce que c'est que le Christ, et qui, pourtant, vit très honnêtement et plus religieusement. Et essayer de contempler. Cela existe. On en a tous rencontré. Et vous en rencontrerez. Vous voyez, on rencontre ces gens-là. Qui sont intérieurement. Et quand on leur demande. Je cherche Dieu. Bon, alors on parle de ce gars-là. Bon,
ouais.
Je dis cet homme qui est comme ça a nécessairement la grâce. Mais il ne le sait pas.
Et quand il reçoit les baptêmes, qu'est-ce que ça change en lui?
Le mystère du Christ.
Alors c'est quelque chose de complètement nouveau ou c'est uniquement une explicitation?
L'explicitation est quelque chose de tout à fait nouveau quand cette explicitation repose sur le mystère du Christ. Il reçoit le baptême au nom du Christ. Les sacrements sont tous nous relient au Christ. Vous voyez, distinguons, il y a la nature, il y a la grâce qui vient s'ajouter et il y a l'explicitation du Christ. Il y a des gens, et il y en aura de plus en plus. Alors, ordinairement, dans des pays qui ont été chrétiens, ils ont été baptisés. Ils ne le savent pas. Ils ont vécu absolument en dehors de leur baptême. Mais ils ont été baptisés. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un qui n'a pas été baptisé, qui a été élevé uniquement à la voltairienne. J'ai rencontré ça. J'ai rencontré ça en Suisse. C'était une personne de Marseille. De Marseille, qui a épousé un Suisse. Alors ça fait un petit mélange avec un Suisse alébanique. C'est encore mieux. Alors ça faisait un drôle de foyer. Bon, cette femme a été élevée à la voltairienne. C'est vraiment... Je ne croyais pas que même que ça existait d'une façon aussi explicite, encore aujourd'hui. J'ai fait grande attention, vous comprenez. Je me dis, le Seigneur me la met sur la route, c'est pas pour rien. Donc, essayons de redresser ce qu'il y avait de méchants dans Voltaire, d'offensifs, puis petit à petit comprendre. Elle avait vu, et c'est là où on voit l'art chrétien, elle avait vu à Florence un tableau où on montrait les enfants morts sans baptême, qui ne voyaient pas Dieu. Ça l'avait beaucoup frappé. C'était une catéchèse sans réponse, puisque c'est un tableau, pas de réponse. Ça l'avait frappé. Elle m'avait demandé d'expliquer un peu ça. Bon, quand elle a eu un enfant, elle a voulu que cet enfant soit baptisé. Mais on lui a dit, vous n'avez pas été baptisé, vous. Vous ne pourriez pas élever cet enfant chrétiennement. Alors, elle m'avait demandé d'être parrain, cet enfant, en disant, je l'élèverai exactement comme vous demanderez de l'élever. Bon, élever voltairienne, demander ça à un prêtre. Vous croyez que la grâce n'a pas agi sur cette personne ? Pour faire que son enfant soit baptisé, et puis il ne peut être baptisé que si elle promettait de l'élever chrétiennement. Elle me dit, moi je ne suis pas chrétienne, je ne sais pas ce que c'est d'élever mon enfant chrétiennement, mais je vous demanderai comment il faut faire. Ça, c'est l'action de la grâce. Et il faut y aller lentement. Et parce que j'étais parrain, le prêtre a accepté de baptiser l'enfant. Et j'ai dit, elle le fera chrétiennement. Et c'est vrai, elle a fait exactement. Elle récitait la prière avec lui. Là, on voit que, n'est-ce pas, Dieu a une souplesse bien plus grande que nous. Parce qu'il est infiniment bon. Alors, Dieu sauve des gens dans des situations impossibles. On dit, oh, elle était voltairienne, c'est fini. Pas du tout. Son mari était sceptique, comme un positiviste de premier ordre. Mais il aimait son épouse, il m'aimait. Et tout ce que vous faites, c'est très bien, c'est très bien. On fera ça. Il ne comprenait rien du tout. Et on se trouve tout le temps dans des situations comme ça, aujourd'hui. Et la grâce de Dieu travaille au-delà des sacrements. Et vous voyez bien, typiquement, exactement ça. Alors, c'est bien évident qu'il y a la grâce, mais je ne lui dis pas, parce qu'elle n'a pas besoin, mais on essaie de découvrir petit à petit, et qu'elle découvre le Christ. Et Dieu... J'allais dire, moi je dis toujours, c'est pas très, c'est, il travaille comme une taupe. Dans certains milieux, par en dessous, sans rien dire, puis on voit, ah, tout d'un coup, ça se lève. Et le mot Dieu n'est pas dit, et on voit que la grâce est là. Donc, dans le langage est païen, le langage est. Et païen, plus que païen, parce qu'il est en opposition même vis-à-vis du christianisme, vis-à-vis, on bouffe des curés, en opposition avec les curés, mais pas en opposition avec la vie. Et la vie vient de Dieu, notre vie, elle vient de Dieu. Et donc petit à petit, on découvre la vie de l'intelligence, du cœur, et on découvre Dieu. C'est la vie apostolique, si on la vit bien, elle oblige de nous d'être de bons théologiens, de vrais théologiens, c'est-à-dire de voir cette action de Dieu, et on se tait. Ne dites pas quelqu'un fait ça, qui était élevé tout à fait en dehors. C'est Dieu, c'est Dieu à la grâce qui est en vous. Non, parce que si vous dites ça, elle sera en opposition vis-à-vis d'elle-même. Parce que la grâce, ça, pour vous, c'est quelque chose de merveilleux. Mais pour elle, pour ces personnes qui sont élevées, elles, voltairiennes, ils sont en opposition. Donc il ne faut pas les mettre en opposition vis-à-vis d'elles-mêmes. Il faut laisser la grâce de Dieu travailler lentement, sans nom. Il ne faut pas oublier que Yahvé ne s'est pas révélé tout de suite avec son nom. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham. C'est plus facile le Dieu d'Abraham que d'accepter celui, je suis celui qui est. C'est dans ce sens-là que l'Ancien Testament est excellent pour nous.
Est-ce qu'on ne doit pas distinguer, Père, à propos de cette question, grâce naturelle et une grâce, la grâce surnaturelle ?
Mais non, il n'y a pas une grâce naturelle.
Saint Thomas en parle tout de même d'une aide naturelle dans le prolongement de la création et du gouvernement de
Dieu.
Pas
de grâce naturelle. Il dit pas ça.
Il dit auxilium divinum.
Auxilium.
Oui. Une aide.
Mais l'aide de Dieu tout le temps.
Tout le temps.
Tout le temps.
Eh bien, ça.
Mais tout le temps. Mais l'aide de Dieu prend des dimensions très différentes. Et de temps en temps, l'aide de Dieu fait que vraiment, cette personne, on peut dire, est émue par la grâce, sans qu'elle puisse nommer. Puisque l'aide de Dieu est ordonnée à la grâce. C'est nous qui faisons des.
Oui, bien sûr, mais.
Hein? Du côté de Dieu. Du côté de Dieu, mais Dieu nous conduit en nous appelant vers lui. Bon, cet appel de Dieu est très différent. Pour quelqu'un qui est élevé d'une manière voltairienne, si Dieu se présente comme, justement, selon son nom, tu vois, selon cette manière d'entendre, il s'en est en opposition. Alors c'est extraordinaire, moi, de voir comment Dieu agit doucement et se révèle progressivement. Et que nous, curés, sommes des serviteurs souvent très grossiers à côté de Dieu. Et là, on met tout de suite des catalogues, des noms. Alors que des noms, chez cette personne élevée voltairienne, c'est un nom insupportable. Alors, surtout pas ça. Il faut.
Donc, dans toute la réponse que vous avez faite à cette question, vous aviez en tête grâce chrétienne.
Ben oui. Parce qu'il n'y a que la grâce chrétienne. Il n'y en a pas d'autre. Toute grâce est chrétienne. Il n'y a pas d'autre grâce. Mais explicitement, chez celui qui l'a reçue, il ne sait pas que c'est la grâce. Il ne sait pas qu'il est mû par Dieu. Et son âme a été créée par Dieu, sans qu'il le sache.
Mais tout de même, saint Thomas parle pour nos facultés naturelles d'une aide de Dieu naturelle.
Mais oui, c'est sûr.
Pour l'exercice, pour mais l'acte de ses facultés naturelles.
Mais c'est sûr.
Et ça, c'est pas la grâce surnaturelle.
Mais non, c'est pas la grâce surnaturelle. On parlait de la grâce surnaturelle.
C'était l'objet de cette question.
Oui. L'objet naturel, lui, tout le monde vit de Dieu. Puisque Dieu a créé leur âme. Donc tout le monde vit de Dieu. Naturellement, il vit de Dieu. Autrement, il n'aurait pas d'âme. Donc, il y a cette conduite naturelle de Dieu sur tous. Et chez certains, cette conduite naturelle de Dieu va plus loin. Beaucoup plus loin. Naturellement, quand on dit que naturellement, il découvre Dieu, mais naturellement, la grâce de Dieu est là. Mais pas nécessairement la grâce surnaturelle. Pas nécessairement donc la grâce explicitement. Mais tout est ordonné à ça. Nous, nous coupons. Mais du côté de Dieu, qu'est-ce que c'est que le regard de sagesse ? C'est de regarder du côté de Dieu. Quand on a été gosse, on regardait ça. Puis on se mettait à regarder entre ses jambes le paysage par derrière. Et on voyait que c'était tout à fait différent. On a tous fait ça. On a tous eu. Et quand on est plus âgé, on n'accepte pas cette modalité différente de voir l'objet. La raison formelle. Bon. Ces gens-là, qui sont menés par Dieu, ne peuvent pas expliciter. Ils sont menés par Dieu surnaturellement. Ils ne l'explicitent pas. Et vous pourriez l'expliciter et dire ah non. Vous iriez plus vite que la grâce. Vous seriez un mauvais théologien qui veut expliciter. Oh. Il faut agir avec une très grande discrétion, moi je crois, lorsqu'il s'agit de là. Parce que on doit aider en se plaçant là où ils sont, pas extérieurement. Et nous, avec notre théologie, très facilement, on se passe extérieurement. Parce que nous sommes tous gâtés de faire de la théologie. C'est le dessert. Hein. Alors, quand on est gourmand, hein, on aime bien les desserts au chocolat. Et là, on va tout, il faut laisser pousser la cigane.
Père, alors vraiment pour conclure donc cette question, contempler naturellement Dieu et cette aide naturelle, exercice de mes facultés naturelles, c'est possible sans la grâce surnaturelle. Donc cet homme de bonne volonté va vivre de cette grâce naturelle.
Attention, c'est possible. Naturellement, c'est possible de découvrir l'existence de Dieu et de le contempler. Ça, je dois l'affirmer. L'Église me le demande.
Tout à fait.
Parce qu'autrement, je serais luthérien. Nous savons, notre intelligence n'a pas été touchée par le péché. Et notre intelligence vient de Dieu et elle retourne à Dieu naturellement. Oui. Alors, dans ce cheminement naturel, parce que nous savons que ce cheminement naturel est partiel, puisque retourner vers Dieu, c'est retourner pleinement vers le Père. Il nous a donné son Fils pour nous aider. Alors, ne n'allons pas trop vite dans les étapes. C'est ça. Il faut que le naturel soit mûr pour qu'on puisse parler du surnaturel explicitement. Alors, quelquefois, ça va très vite. Oui. Je crois qu'il faut maintenir le réalisme divin qui est beaucoup plus important que ce que nous disons ordinairement. Dieu agit constamment d'une façon cachée. Et bien, un jour, c'est explicite. Alors, au fond, là, c'est l'action cachée de Dieu. Je ne peux pas la dire. Je la vois, je suis très étonné, j'en suis émerveillé, je me tais. Je l'admire. Et je fais attention. Oui. Quand cette personne voltairienne, mariée, je ne sais plus si elle était mariée à l'église. Je ne sais plus, puisque son conjoint ne me voyait pas non plus. Mais tu vois-t-il que quand une personne comme ça, où on commence à voir des effets de la grâce, quand elle a vu ce tableau, c'est la question. C'est l'effet de la grâce. Et constamment, aujourd'hui, Dieu agit beaucoup plus par le point de vue artistique que par le point de vue moral. Le point de vue moral agace les gens. Le point de vue artistique les éveille. C'est pour ça que je crois que ce que fait à Genève, est très important. Parce que c'est ces artistes qui sont ordinairement, du moins il y en a toute partie qui sont chrétiens et qui sont mal reçus dans le milieu chrétien. De voir d'être reçus bien par des religieux, ça leur donne une joie prodigieuse. Et tout de suite, le chrétien se réveille en eux. Et que le point de vue artistique, aujourd'hui, je crois, est une très grande manière de conduire vers Dieu. Bon.
Merci.
L'autre question. Pourquoi est-ce que serait défini que par la finesse. Ah oui. pourquoi est-ce que le peu humain très bien, vous allez dire.
Pourquoi est-ce que la personne humaine ne se définit pas que par la finalité, alors qu'elle est une parmi les sept dimensions de la personne humaine? Est-ce parce que la finalité est en cause des causes, sans elle, les autres dimensions n'ont plus leur raison d'être?
Tout à fait juste. La finalité est la cause des causes. Possible que par la contemplation. C'est pas ça, oui, que vous dites. Seule la contemplation peut nous permettre de faire un vœu, de se donner totalement à la contemplation. Donc, de dépasser cette obligation naturelle de fonder un foyer. C'est une obligation naturelle de prolonger l'espèce humaine. On n'a peut-être pas eu beaucoup conscience de ça, mais c'est la réalité. Nous avons un devoir de prolonger l'espèce humaine, de continuer l'espèce humaine. Or, nous savons que nous ne sommes pas éternels, donc la nature humaine ne peut dépasser le temps que grâce à la procréation. Or, la procréation, le devoir d'avoir des enfants, ne peut être dépassé que par la contemplation. C'est ça que je voulais exprimer. Pourquoi avoir un foyer n'est-ce pas une dimension de la personne humaine? Ah oui, pourquoi le mariage? Mais oui, c'est la dimension de l'amitié. C'est la dimension de l'amitié et du père et de la mère. Au contraire, on a commencé par la personne, par le point de vue du père et de la mère. Mais le simple fait d'avoir un enfant ou d'avoir des enfants ne vous donne pas, ne vous permet pas d'atteindre votre personnalité. Parce que votre personnalité a une finalité supérieure à la procréation. Autrement, l'animal serait aussi une personne du fait qu'il a des enfants. La vache qui a des petits veaux serait une personne. Elle est ma bonne mère. On va boire le champagne. Le point de vue de la procréation ne caractérise pas une personne. À ce point de vue-là, c'est très bien cette question. La procréation neutre. La fécondité est naturelle, elle n'est pas personnelle. Oui, nature personne. L'éducation à éduquer quelqu'un, c'est déjà quelque chose. L'éducation, parce que l'éducation consiste à montrer à l'enfant, au petit veau, à l'enfant, qu'il a une finalité. Or, le petit veau n'a pas de finalité plus grande que la nature. Et naturellement, le petit veau grandira et deviendra vache et deviendra mère vache. Naturellement, il n'y a pas de personne. La personne implique l'intelligence. Aujourd'hui, il existe des couples non mixtes qui pensent accepter des enfants. Peut-on dire que ce sont des foyers? Non, parce qu'ils sont bâtis sur quelque chose qui n'est pas naturel. Adopter des enfants, c'est vouloir cacher. C'est très curieux. Étudier de près ces gens homosexuels qui adoptent des enfants. C'est vouloir faire comme tout le monde, alors qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas comme tout le monde. Alors ils veulent cacher ça, voilà, en prenant des enfants. Mais faut être quand même très net là-dessus. Est-ce que l'homosexualité est naturelle? Grande question. Je sais bien que c'est une très grave question, et une question très importante. Il faut là-dessus avoir une position très vraie, pas moralisante, parce que ça les agace. Or, la plupart du temps, on a une position moralisante là-dessus. Or, il faut avoir une position plus que moralisante. C'est pas du tout pour supprimer le point de vue moral. C'est tout à fait normal qu'on ait la position moralisante. Mais je parle vis-à-vis d'eux. Si vous parlez moralement vis-à-vis des homosexuels, ils vous renvoient promener. Et tout ce que vous dites, c'est le serment du curé. Et donc ça n'aura aucune valeur. Il faut essayer d'entrer profondément dans le point de vue de l'homosexualité et montrer dans l'homosexualité il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Vous voyez ? Donc, je vais plus. Je dis moralisante, c'est regarder la finalité. Or, ils ne peuvent pas l'entendre. Il faut revenir au point de vue premier. L'homme et la femme sont tels, tels dans leur nature, pour l'homosexualité. C'est la question. Et il faut s'occuper d'eux de cette manière-là. Or, très souvent, c'est le point de vue par l'amitié qu'on peut arriver à déceler ça, tu vois. Et de montrer que l'amitié n'est pas parfaite. Et très souvent, ça provient d'un obstacle. Un obstacle qui a été mal contourné, mal dénoué, et qui nous engouffre dans l'homosexualité. Je dis bien nous engouffre, parce que c'est très difficile de faire sortir des hommes ou des femmes qui sont homosexuels de leur homosexualité. C'est très difficile. Mais c'est très important, parce que dans les périodes où l'espérance diminue ou disparaît, l'homosexualité augmente. Toujours. Les fins de civilisation. Dans toutes les fins de civilisation, il y a l'homosexualité. Un pays jeune, en plein d'espérance, ne connaît pas l'homosexualité. C'est presque une position de désespoir, de repliement. Et c'est très important de la saisir philosophiquement. C'est là où la philosophie doit nous aider. Parce que je crois que tant qu'on n'a pas une position philosophique sur l'homosexualité et une position uniquement morale, ça ne joue pas. Et c'est important parce que dans notre monde d'aujourd'hui, qui a tous les travers, pour les vieux pays d'une fin de civilisation, il faut qu'on puisse aider ces gens-là. Barrer la route, hein, dire je veux les mettre en dehors, c'est pas ça. Les accueillir comme si c'était normal, c'est pas les guérir. Oh, c'est la tendance, c'est la tentation, c'est une fausse miséricorde. Alors il faut au contraire pouvoir avoir un dialogue vrai avec ces personnes et montrer que ils vont contre la finalité. Il y a un détournement de la finalité. Et ce détournement de la finalité est ordonné à la jouissance. Alors le point de vue sexuel est pris uniquement du côté de la jouissance. Alors, dès qu'on est de ce point de vue-là, la finalité est reprise du point de vue purement subjectif. Et comme il est repris du point de vue purement subjectif, vous ne pouvez absolument pas en sortir. Je connaissais quelqu'un, moi, qui était entièrement voué à cela quand il était plus jeune, et il m'invitait de temps en temps dans ses réunions le soir avec tout un groupe, et il me demandait de leur parler, et par l'amitié on a contact avec eux, et il faut montrer que l'amitié ne va pas jusqu'au bout. Elle est donnée au point de départ. Et puis, bon, je vais dire, ils prennent la propriété de l'amitié et pas la finalité. Ils arrivent à montrer qu'il y a un détournement de l'amitié dans l'homosexualité qui est très dangereux. Qui est la destruction de la nature. Alors, le fait d'adopter des enfants, c'est donner, c'est extérieurement se justifier. Et montrer que on redevient à la nature, naturelle. Vous voyez ? Extérieurement, on se justifie. Et montrer que c'est mauvais d'éduquer des enfants dans ce climat. Parce que l'homosexualité détruit l'amitié. Il y a quelque chose de faux qui détruit l'amitié. Il faut, là encore, y aller avec une très grande miséricorde. Parce que, au fond, ce sont les victimes d'une civilisation décadente. Ils n'en peuvent rien, souvent. Ils sont les victimes. Et donc, on doit avoir vis-à-vis d'eux une très grande miséricorde. Et pas condamner en bloc. Extérieurement, non. Avoir une très grande miséricorde pour essayer progressivement de redresser ça. Et c'est très difficile.